Donc doutons de tout, méthodiquement, même du cours de zététique, hein, à plus forte raison du cours de zététique. Et tous les autres cours que vous recevez, tous les autres cours que vous recevez à l'université, il faut en douter. Mais pour le faire, il faut qu'on se mette d'accord sur quelques points. Et les quelques points qui viennent là, ils sont absolument essentiels dans la démarche. Je crois qu'il me reste, si je veux vraiment vous prendre vos questions, je vais juste introduire les questions de science, la distinction entre acte de foi et adhésion, qui sont essentielles si on ne veut pas s'engueuler. Pas entre nous, mais entre vous-même et avec vos collègues et vos copains et vos familles. Derrière le mot science, quand j'utiliserai le mot science, moi, il a un sens très précis, qui n'est pas le même que pour beaucoup de gens qui parlent. Derrière le mot science, il y a quatre sens différents. Le premier sens, c'est, quand on parle de science, parfois on entend le groupe social des scientifiques. C'est tous les gens qui font de la science. Alors bon, vous êtes à l'université, vous n'êtes pas trop complexé par ça. Mais pour les gens qui ne sont pas à l'université ou qui ne connaissent pas trop de scientifiques, leur imaginaire, c'est plutôt, je vous ai mis le doc de Retour vers le futur, je vous ai mis des mecs qui font des trucs bizarres dans leur cave et qui injectent genre les docteurs Frankenstein de maintenant, quoi, si vous voulez. Et c'est le groupe social, il est critiquable, il a ses rites, il a ses grades, il y a plein de trucs critiquables. La sociologie des sciences critique ça, d'ailleurs, hein, de manière approfondie. Moi, je ne défends pas le groupe social et scientifique, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. La somme des connaissances, c'est déjà plus intéressant. C'est tout ce qu'on sait sur le caniche à poil ras, tout ce qu'on sait sur le cloporte, tout ce qu'on sait sur la salade, tout ce qu'on sait sur le neutrino, tout ce qu'on sait sur l'escalade d'engagement en psychologie sociale, tout ce qu'on sait sur l'arabe littéraire du XIe siècle. Vous voyez, tout ce qu'on sait à un moment donné. Ça fait un empilement de bouquins, c'est pour ça que j'ai mis un empilement de bouquins. Mais vous savez que la science, c'est un processus qui est correctif, parce qu'il est collaboratif, et il est collectif, et il est correctif. C'est-à-dire qu'on corrige quand c'est faux. Ça prend parfois plus ou moins de temps, mais on corrige. Et donc, généralement, les feuilles du dessus, elles bougent, quoi. Les dernières publications qui arrivent, il y en a un autre qui refait, on se rend compte que c'est pourri, hop, et on vire et tout. Des fois, il arrive même qu'il y ait des révolutions. Alors, révolution, on appelle ça comme ça, hein, c'est quand quelqu'un vient et tire un bouquin très bas dans la colonne, quoi. Donc, Einstein, 1905, il arrive, chup, il tire le plof. Enfin, tout tombe pas, mais il y a quand même pas mal de dégâts. Voilà, ça arrive, ça, parfois. Mais n'empêche, c'est un ensemble qui est stable, et de toute façon, vous n'avez que ça pour vous appuyer. Donc quand vous allez faire vos recherches, il faut d'abord faire l'état des lieux, savoir où on en est, quelles sont les connaissances sur le sujet que vous prenez, qu'est-ce qu'on a fait sur la télépathie, qu'est-ce qu'il y a sur le triangle de la burle, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, il faut d'abord faire la bibliographie. Donc la somme des connaissances, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis la technopolitique. J'insiste sur ce point parce que c'est probablement le sens du mot science qui écœure le plus les gens. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'argent sur tel ou tel sujet de recherche ? Qu'est-ce qui fait que les pathologies qui touchent les Noirs et les populations pauvres intéressent beaucoup moins les gens blancs et riches, qui décident généralement, qui sont plutôt blancs et plutôt riches la plupart du temps, et qui préfèrent plutôt placer cet argent sur des recherches qui touchent, je sais pas, par exemple, le paludisme. Vu le nombre de gens qui meurent de paludisme, ça devrait être une priorité mondiale, quoi. Et ben, bizarrement, ça ne l'est pas, quoi. Qui décide ça ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gros scandales sanitaires comme la dépakine, le Mediator Et vous voyez, plein de gens se disent « Ah ouais, en fait, c'est ça la science, c'est ces trucs-là dégueulasses là, qui se font en notre nom, avec notre argent, et qui sont trop moches, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Si c'est ça la science, alors moi, j'en veux pas. » Et en fait, le processus, il est fréquent. Je remarque que beaucoup de gens qui vont tomber dans des trucs anti-science, contre la démarche scientifique, si vous voulez, sont des gens qui sont écœurés par ce qu'il y a en effet sur le plan politique et sur le plan technologique. Et je trouve qu'ils ont, autant ils ont raison d'être écœurés par ça et de vouloir le refaire et le critiquer, autant jeter pour autant la démarche, elle, c'est dommage. Et c'est ça le quatrième sens de ce que je veux dire, c'est la démarche intellectuelle. La science, c'est la démarche intellectuelle. C'est pas c'est pas une dictature que l'on place sur le monde, la science. C'est la seule démarche qu'on a inventée pour arriver à tomber d'accord sur quelque chose tous ensemble. Quels que soient nos avis de départ, quelle que soit notre subjectivité, nos croyances, etc. On va tous tomber d'accord sur le fait que si on veut sortir d'ici, on va essayer de viser la porte. On ne va pas miser sur un effet tunnel à travers le mur, quoi. On est tous d'accord que, ben, il vaut mieux passer par la porte, qu'il y aura moins de frottement, et puis que l'effet tunnel au niveau macroscopique, ça ne marche pas, et qu'on risque de faire comme certains dans Harry Potter, se payer le mur, se faire mal, quoi. Vous voyez ? Donc on dit que c'est la démarche intellectuelle qui est contraignante, qui vise à faire des affirmations vraisemblables sur le monde. On ne dit pas vrai en science. Le vrai, ça n'existe pas en science. Parce que, de toute façon, si ça se trouve, le vrai sera un jour faux. Si vous voulez. Donc on dit qu'il y a des choses qui sont vraisemblables, il y a des choses qui sont plus vraisemblables que d'autres. Et pour l'instant, on peut dire qu'il y a des choses plus vraisemblables que d'autres. La gravitation, la théorie de la gravitation, actuellement, elle est la théorie la plus vraisemblable pour expliquer pourquoi les corps lourds tombent, quoi. En tout cas, c'est plus vraisemblable qu'un lutin invisible qui viendrait saisir les objets et les tirer par terre. Si vous voyez, ça marche moins bien, quoi. Mais si ça se trouve, dans 100 ans, on aura trouvé une théorie qui est plus complexe que ça et qui explique plus de choses. Donc c'est ça, moi, que je défends. Quand j'utiliserai le mot science, j'utiliserai toujours la démarche intellectuelle. Vous voyez? C'est pas autre chose. Là, j'ai pas résisté à vous mettre Bertrand Russell qui dit... Il dit, en fait, à un moment, dans un article, il dit « Je vais faire une phrase qui est complètement avant-gardiste et à mon grand étonnement, elle est avant-gardiste et elle choque beaucoup de gens. Donnez-moi de bonnes raisons de penser ce que vous pensez. » En fait, la démonstration scientifique, c'est ça. C'est si vous me donnez de bonnes raisons de penser ce que vous pensez, alors je tombe d'accord avec vous. Vous voyez ? Si vous ne me donnez pas de raisons de penser ce que vous pensez, bah, je me fiche de ce que vous me racontez, en gros. Pour la description du monde. Hein. Il ne s'agit pas de discuter des valeurs ou discuter de vagues opinions artistiques, par exemple. Ce n'est pas ça. Hein. On parle vraiment de la description du monde. Donc la science, elle fait des énoncés testables, potentiellement réfutables. La science peut faire des énoncés puis ils sont faux, voyez. Mais on essaie de les rendre les moins subjectifs possibles. C'est ce qui fait que, normalement, vous faites un article en science et votre dossier, s'il est lu par un Coréen, par une nana du Panama et par un Inuit, et tout le monde tombera d'accord parce que votre démonstration, elle est imparable. Quoi, voyez. C'est censé être évaluable par tous et en plus, c'est collectif comme démarche. En fait, c'est chouette, quoi. C'est collectif, c'est collaboratif, c'est censé être collaboratif. Maintenant, deuxième point, distinction entre acte de foi et adhésion. Hyper important de comprendre la différence. Un acte de foi... c'est quand vous postulez que quelque chose est vrai sans preuve. C'est très pratique un acte de foi parce que vous pouvez faire le choix de l'acte de foi que vous voulez. Vous pouvez décider que Zeus existe, vous pouvez décider que, je sais pas moi, Jéhovah existe, que Allah existe, vous pouvez le décider, c'est votre choix, personne ne peut rien y faire, c'est votre problème. L'inconvénient majeur, par contre, c'est que vous ne pouvez pas démontrer que vous avez raison de faire ce choix. Vous n'avez aucune manière de démontrer que vous avez eu raison de choisir telle ou telle entité surnaturelle pour diriger votre vie, quoi. Mais c'est une affaire intime. Donc les actes de foi, ça ne nous regarde pas. Et dans le cours de zététique, on ne parle pas de vos actes de foi. Et vous en avez, j'en ai probablement aussi, des actes de foi qu'on ne rediscute pas. Quoi. C'est à vous, ça vous appartient. Par contre, l'adhésion, elle regarde tout le monde. Qu'est-ce qui fait que vous allez adhérer à telle ou telle théorie? Qu'est-ce qui fait que quelque chose va remporter votre adhésion? Généralement, c'est des preuves, des démonstrations qui vont vous faire remporter une adhésion. Alors, ce qui est pratique avec l'adhésion, c'est que la fausseté elle peut se prouver, on peut montrer que ça ne marche pas, qu'un théorème ne marche pas, qu'une démonstration ne marche pas, que des cas ne rentrent pas dans la théorie qui est présentée, etc. Et par contre, vous n'avez pas le choix des résultats. Pour le dire autrement, le monde n'est pas fait pour nous faire plaisir. Le monde, que vous aimiez la théorie de la gravitation ou pas, les corps tombent, boum. Voilà quoi. Vous n'y pouvez pas grand-chose et c'est comme ça. Quoi. Ça s'impose à la raison. Alors, généralement, les questions qui viennent, c'est est-ce qu'il faut respecter les croyances de chacun? Alors, si c'est les croyances au sens d'acte de foi, on pourrait avoir envie de dire, bah oui, chacun fait comme il veut, en fait. Mais à partir du moment où ces croyances prennent parfois le pas sur l'intimité et deviennent collectives, on les rend publiques, par exemple, où on en parle, je sais pas, prenez un gars comme François Fillon qui parle de ses opinions religieuses à des fins politiques, là, ça devient problématique, vous voyez, c'est plus intime, quoi. Il en parle à des fins politiques. Donc là, ça se rediscute, quoi. Et puis, il y a des croyances qui sont absolument immondes, quoi. Il y a des croyances qui sont racistes. Il y a des croyances qui prétendent que les Noirs sont inférieurs aux Blancs et sont des loques à peine intermédiaires entre le singe et l'humain, quoi. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent que l'excision des jeunes filles leur permet une meilleure vie et de mieux se comporter, quoi. Bon, il y a des croyances... Alors, vous réglerez ça avec des discussions morales et on aura un cours spécifique là-dessus. C'est une question morale et juridique, mais il y a des croyances qui sont vraiment horribles, quoi. Très clairement horribles, vraiment. Et puis même attentatoires parfois à d'autres personnes. Puis pour vous donner un exemple tout bête, chez les témoins de Jéhovah, par exemple, le discours est de dire qu'on ne tolère pas les transfusions sanguines. Vous connaissez cette histoire, non, j'imagine. Alors quand un individu fait ce choix-là et dit « ben non, moi je ne veux pas de transfusion sanguine », bon, s'il fait ce choix pour lui, moi je trouve que ça se respecte, même si je ne suis pas d'accord a priori, mais c'est son choix, quoi. Et s'il connaît les attenants et qu'il risque de mourir, bon, tant mieux. Mais si par contre il décide ça pour son enfant qui n'est pas en mesure de le décider, ouais, là ça pose un problème moral qui est fort quand même. Donc toute croyance, les croyances ne se valent pas, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et est-ce qu'on peut parler scientifiquement de Dieu? Ça c'est souvent la deuxième question qui vient, donc je l'anticipe. Qu'est-ce qu'on peut dire scientifiquement de Dieu? Eh bien ça dépend. Ça dépend si l'interlocuteur il est dans un acte de foi ou bien dans l'adhésion. Alors s'il est dans l'acte de foi, bah, la science elle n'a rien à dire là-dessus. Si quelqu'un me dit « qu'est-ce que tu penses de Dieu ?» Parce que moi je crois en Dieu. Bah, je dis bah, « grand bien te fasse, t'sais. Si ça te rend sympa et gentil et agréable avec les autres, tant mieux. » quoi. Voilà. Mais normalement il n'est pas censé m'en parler puisque c'est une affaire intime. Mais bon, s'il avait envie de m'en parler, il m'en parle. Quoi. Par contre s'il me dit « ah non mais j'adhère, je sais que Dieu existe car j'ai des preuves », là c'est à la science de s'y pencher. Parce que c'est des éléments, quoi, des preuves. Donc si on vient avec un suaire de Turin ou avec un sang de Saint-Janvier ou peu importe, un miracle, là j'ai le droit de regarder. voyez, scientifiquement parlant, on a le droit de regarder et de tomber d'accord sur le résultat, quoi. Si vous avez pigé ça, vous avez déjà fait un bon travail. Alors, l'adhésion se fait à partir d'énoncés testables, c'est ce que je vous ai marqué. Et il y a des énoncés qui ne sont pas testables. Il y a des choses qui sont très intéressantes dans la vie, mais qui ne sont pas testables et qui ne font pas partie de la science. Et ce n'est pas grave, c'est de la non-science, quoi. L'art, l'introspection personnelle, j'ai mis la foi, la théologie, la littérature. Enfin, je ne parle pas de la littérature comparée, hein, par exemple, hein, qui est plus technique, quoi. Mais la poésie ne s'analyse pas scientifiquement, quoi. Sinon, ce serait la déprime, quoi. Je ne sais pas si vous analysez une fiction... Si vous analysez Harry Potter scientifiquement parlant, ça ne va pas trop marcher, quoi. Ça se respecte, si vous voulez. Et à côté, vous avez la science. Son but, c'est de voir est-ce que ces énoncés sont valables pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment des structures complètement différentes. Donc, je vous ai mis des exemples comme ça d'énoncés qui sont intestables. Je n'aime pas Manuel Valls. J'ai mis Manuel Valls. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'aime pas Manuel Valls. Bon, ben, vous allez me dire, ben, moi, je l'aime bien. Puis voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, bon. Après, si j'arrive avec des arguments techniques, là, je re-rentre dans une discussion scientifique. Mais sinon, c'est juste un jugement de valeur et ça n'a pas tellement d'intérêt. J'ai mis ceux qui préfèrent GTA à Call of Duty. Bon, qu'est-ce que l'autre, il dit, bah, pas moi, tu sais. Puis voilà, c'est des jugements de valeur. Si je vous dis, mon Dieu est plus fort que le tien, ou si je vous dis, ma mère est la plus belle, pff, voilà, on ne peut rien faire avec ça. OK ? Ça, on ne peut rien faire du tout. Par contre, si on vous dit, manger des petits filous, vous savez, ces petits Suisses, avec lesquels je n'ai aucun lien d'intérêt d'ailleurs, hein, sachez-le, fait grandir plus vite, ça c'est une affirmation scientifique. Elle peut être vraie, elle peut être fausse, mais on peut le vérifier. D'accord ? Si vous prenez ça, M. Bana, qui nous dit, résout tous vos problèmes familiaux, même déçu d'une autre voyance, protection contre les dangers, problèmes sexuels, maladies inconnues, permis de conduire, examen, solitude, fécondité, chance réussite dans vos projets, c'est génial, tout. Ben, il vous dit que il dit votre mari ou votre femme vous a quitté, il ou elle courra derrière vous comme un chien derrière son maître grâce à son don surnaturel. Alors ça se vérifie. On pourrait l'appeler, dire voilà, on va monter un protocole expérimental. Est-ce que quelqu'un qui s'est fait larguer par sa meuf ou son mec, est-ce que 3 jours plus tard, il revient comme un chien courir derrière, quoi. Et on teste si effectivement ce monsieur est capable de faire ça, quoi. En plus, c'est garanti 100% et résultat dans les 3 jours. Bon, bah testons, quoi. Ça se teste, vous voyez. Là, on est dans la science. Alors la bonne nouvelle, et je termine là-dessus pour prendre vos questions, c'est que que ce soit le racisme technique, c'est-à-dire les gens qui prétendent l'infériorité de certains groupes ethniques par rapport à d'autres, le sexisme, le spécisme, c'est-à-dire certaines formes d'ordination des espèces entre elles, l'homophobie, les mensonges pharmaceutiques, les dérives idéologiques, les dérives religieuses en sciences, les pseudo-médecines, les arnaques politiques, les mensonges économiques, les mensonges médiatiques. Tout ça, en fait, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que la plupart de ces aliénations-là, qui composent vraiment les aliénations modernes du XXIe siècle, hein, reposent sur des affirmations de type scientifique. Et elles sont souvent fausses et pseudo-scientifiques. C'est-à-dire que c'est vachement plus puissant de démontrer pourquoi quelque chose est faux que de juste objecter des jugements de valeur. Je me rappelle une copine, par exemple, qui me disait toujours, pendant que Sarkozy était président de la République, qui disait « Ah, je déteste Sarkozy, je déteste !» Puis je disais, tu sais, ça peut pas marcher, ce discours-là, parce que c'est... En face de toi, là, la personne va dire « Mais moi, je l'aime !» Puis c'est fini, il n'y a plus de discussion. Prends plutôt des arguments de type scientifique pour démontrer pourquoi tu ne l'apprécies pas. Est-ce qu'il y a des raisons, t'as ? Parce que là, s'il y a des vraies raisons, l'autre sera obligé d'être convaincu. Et c'est beaucoup plus puissant de démontrer pourquoi le racisme n'a pas de sens ou le sexisme n'a pas de sens plutôt que de se draper en disant « Non, je suis antiraciste, point, point barre, c'est une posture. » Parce qu'en face, les autres en ont une autre, quoi. Vous voyez ? Donc c'est là que la science devient vraiment intéressante. Vous pouvez éradiquer les arguments pourris. C'est génial. En fait, c'est génial. Et donc vous, dans vos critères de dossier que vous devez prendre, vous devez prendre un sujet qui soit testable. Donc votre dossier, il aura une forme de question, normalement, et vous devrez le rendre testable. Alors essayez de composer vos groupes, et après vous pourrez choisir des sujets. Voici des sujets qui ont été choisis par des étudiants et qui les ont traités, hein, par exemple. Ceux-là, ils ont été résolus. Les crapauds explosifs quand on les fait fumer. Alors je vous donne la réponse. Bon, la réponse est non. Voilà. Déjà, les faire fumer, c'est compliqué, et puis en plus, ils respirent pas à la peau, donc ils s'en foutent complètement. Voilà. Mais c'est pas très sympa de faire ça au crapaud. La réflexologie plantaire est-elle plus efficace qu'un placebo ? La réponse est non. Le point G existe-t-il ? C'est pas très clair, mais vraisemblablement non. Y a-t-il un intérêt thérapeutique au pèlerinage de Lourdes ? Non. Enfin, pas par rapport aux hôpitaux classiques. Et puis même vu les risques qu'on prend sur la route à aller jusqu'à Lourdes quand on vient de loin, ça vaut pas la peine. Insulter les plantes retarde-t-il leur croissance ? La réponse est non. Sauf si vous faites une onde acoustique trop forte. En hurlant ou en mettant des gros caissons de basse et tout. Et là, effectivement, elles ont Des proprioceptions, les plantes, elles n'aiment pas trop les basses, comme, enfin les pum, 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 pum. Alors, elles essayent de s'en aller, en gros. On a vu ça sur les tomates. Bon. Et y a-t-il un pont en Angleterre où les chiens se suicident? La réponse est oui. Le Overton Bridge. Alors en fait, ils ne se suicident pas vraiment, mais ils meurent quand même. Sauf un qui n'est pas mort, mais il est remonté une deuxième fois sur le pont et là, il est vraiment mort. Mais ils ne se suicident pas. Voilà. Mais alors, je ne vous dis pas la raison, vous chercherez vous-même. Hein. Vous, si vous trouvez, vous aurez été plus loin que 30 histoires les plus mystérieuses qui, eux, n'ont pas cherché du tout. Et il y a des sujets qui sont intestables, et ça, il ne faut pas les prendre. Intestable, c'est le Saint Graal existe-t-il ? Un dieu a-t-il créé l'univers ? Voit-on le dieu chacal en prenant de fortes doses de champignons psilocybes dans un caisson isolant ? Y a-t-il un complot illuminati ? Vous ne pourrez pas faire grand-chose avec ça. De quoi est fait l'au-delà ? C'est pareil, quoi. Voyez ? Donc ça, c'est foireux.